Bibliothèque Orbitale, épisode 25.
Well, the girls in town feeling bad. They know my Yankees in Trinidad. They're going to close down the base for good. Them girls have to make out how they could. Now you see them dance up in town. Dance for a penny, not for a pound. Yes, it's competition for soul. Trouble in the town when the price drop. Go bouncing up with Gene and Dinah, Rosita and Clementina. Round the dance floor posing. Bet your life that something is cooking. And if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Domino round. Yankees gone, the West Indians take over now.
Résumé de l'épisode précédent. La situation est grave et même désespérée. À bord de son vaisseau spatial, le babouin présomptueux, Pitou, l'intrépide gladiateur cosmique, se trouve dans une situation délicate. À bâbord, une armada de vaisseaux de guerre arcturiens armés jusqu'aux dents s'approche dangereusement. À tribord, une pluie de météorites file à toute vitesse dans sa direction. Devant lui, un trou noir attire irrésistiblement son vaisseau. Derrière, c'est un banc de calamars stellaires qui bloque le passage. Au-dessus s'étend le cimetière d'astronefs de Mulot 13, et en dessous, le soleil de Sinatra 5 vient de se transformer subitement en supernova. Pour ne rien arranger, les moteurs du babouin turgescent sont en rade, le système informatique du vaisseau est victime d'une cyberattaque, Pitou s'est pris le pied gauche dans un piège à loup qu'il avait mal rangé, et il n'a plus que pour 20 minutes d'oxygène. L'intrépide gladiateur cosmique, flegmatique, se dit que la situation pourrait difficilement s'aggraver, lorsque soudain... Pendant ce temps, à bord d'une station spatiale russe abandonnée, le narrateur, après avoir consciencieusement vomi les hectolitres de chardonnay absorbés la veille, décide de se faire un revival 50s grâce au coffret Destination Mars, récemment sorti chez Artus Film, et à la réédition en folio SF de L'Homme démoli d'Alfred Bester. À l'approche des fêtes de fin d'année, vous aurez sans doute remarqué une accumulation soudaine de coffrets DVD et Blu-ray sur les rayonnages de votre grande surface culturelle préférée. En fouillant un peu dans tout ce fatras, vous risquez de tomber sur deux coffrets que vient de sortir l'éditeur Artus Film, et qui devraient ravir les amateurs de vieilles séries B, Les Dinosaures Attaquent, dont je reparlerai dans un prochain épisode si vous êtes sage, et Destination Mars, qui regroupe 4 films de SF américains sortis sur les écrans entre 1950 et 1953, Les Envahisseurs de la planète Mars, alias Invaders from Mars, 24 heures chez les Martiens, de son titre original Rocket Ship XM, Flight to Mars et Red Planet Mars. 4 classiques SF américains des 50s, si l'on en croit la jaquette du coffret. En fait, seul Invaders from Mars peut être considéré comme un petit classique du genre, les trois autres étant des œuvres beaucoup plus confidentielles et à peu près totalement tombées dans l'oubli aujourd'hui. Mais toutes sont intéressantes à des degrés divers. Commençons par Les Envahisseurs de la planète Mars, au passage le seul film du coffret à proposer une VF pour ceux que ce genre de choses intéresse. Sorti en salle en 1953, Les Envahisseurs de la planète Mars est réalisé par William Cameron Menzies, à qui l'on devait notamment dans les années 30 une adaptation du Things to Come de H.G. Wells, et que les cinéphiles connaissent peut-être davantage pour sa carrière de directeur artistique, notamment sur Autant en emporte le vent, que pour sa carrière de réalisateur. Les Envahisseurs de la planète Mars fait partie de ces films de SF parano, genre auquel on a trop souvent réduit la SF américaine des années 50. Sorti 2 ans après La Chose d'un autre monde, le film produit par Howard Hawks d'après la nouvelle de John W. Campbell, et 3 ans avant l'invasion des profanateurs de sépultures de Don Siegel, l'autre classique du genre adapté du roman de Jack Finney, Les Envahisseurs de la planète Mars met lui aussi en scène une invasion d'extraterrestres qui se veut discrète et n'y parvient évidemment pas. Dans ce film, plutôt que de prendre la place des humains, les extraterrestres disposent d'un moyen de les contrôler à distance, grâce à un appareil placé à la base de la nuque. Il n'est pas interdit de penser que les scénaristes se sont quelque peu inspirés de Marionnettes humaines, le roman de Robert Heinlein paru 2 ans plus tôt, même si on ne peut pas parler de plagiat comme ce fut le cas quelques années plus tard avec la sortie du très mauvais Brain Eaters de Bruno Vezzota. L'originalité des envahisseurs de la planète Mars, et l'un de ses principaux intérêts, c'est que cette invasion est vécue et racontée du point de vue d'un petit garçon, astronome amateur, qui voit un soir un vaisseau spatial s'écraser à proximité de sa maison. Et très vite, il constate que son père, puis sa mère, puis leurs voisins, puis les policiers auxquels il est allé demander de l'aide, se comportent tous de manière étrange. L'une après l'autre, ce sont toutes les figures de l'autorité qui sont soudain métamorphosées et deviennent pour le gamin autant de menaces mortelles. Toute la première moitié du film fonctionne sur ce retournement de valeur et donne au film, en plus de son suspense et de son ambiance paranoïaque, un air de conte de fées cauchemardesque. La seconde moitié du film met en scène la lutte entre extraterrestres et humains, des actes de sabotage menés par les uns à l'assaut final de la soucoupe volante lancé par les autres. On revient là sur des terres plus classiques, et malgré quelques moments de flottement, le film fonctionne bien jusqu'au bout. Il est à noter qu'il existe deux versions de ce film, et même trois, puisque celle qui nous est proposée ici est une version composite des deux précédentes. En effet, un an après la sortie du film, le producteur avait fait tourner quelques nouvelles scènes, spécialement pour le marché anglais, notamment une fin différente, et rajouté une longue scène un peu pénible pour expliquer le phénomène des ovnis au public européen. La version présentée ici reprend cette scène, mais se termine par la scène finale américaine. Qu'on se rassure, la fin alternative anglaise figure dans les bonus du DVD. Notons enfin que, en 1986, le film eut droit à un remake très fidèle et pourtant très raté, mis en scène par Toby Hooper. Mieux vaut donc se replonger dans cet original, daté certes, mais extrêmement sympathique. Flight to Mars et 24 heures chez les Martiens, titre français idiot auquel on préférera le titre original de Rocket Ship XM, racontent tous les deux le premier vol d'une fusée jusqu'à Mars. Il est difficile de parler de ces films sans en évoquer un troisième, malheureusement absent de ce que ferait Destination Lune, inspiré plus qu'adapté du roman Rocket Ship Galileo de Robert Heinlein, Heinlein qui a activement participé à l'élaboration du film en question. Sorti en 1950, Destination Lune, réalisé par Irving Pichel, était un film assez ambitieux, produit par le fameux George Pal, et dont l'objectif clairement affiché était de présenter au public américain le vol spatial de manière aussi crédible que possible. Rocket Ship XM est signé du réalisateur d'origine allemande Kurt Neumann, à qui on doit notamment quelques Tarzan avec Johnny Weissmuller, et qui réalisera en 1958 le célèbre La Mouche Noire avec Vincent Price. Pour un budget 6 fois moindre, Rocket Ship XM fut le premier à tirer parti du buzz médiatique et de la campagne de presse entourant Destination Lune, et parvint même à sortir sur les écrans quelques semaines avant le film de Pichel. Le XM du titre original signifie Expedition Moon, sauf que suite à une pluie de météorites et à une avarie des moteurs, la fusée rate la Lune et arrive sur Mars, où ses occupants découvrent un monde ravagé par un conflit atomique et retombé en pleine barbarie. Contrairement au réalisme de Destination Lune, Rocket Ship XM n'affiche qu'un vernis de vraisemblance scientifique et, dès que le scénario le nécessite, s'en débarrasse sans mal. On ne s'étonnera donc pas si le voyage de la Lune à Mars est encore plus court que celui de la Terre à la Lune. Ce n'est pas si grave que ça, puisque le film ne devient vraiment intéressant que lorsque l'équipage débarque sur Mars. Le noir et blanc disparaît au profit de teintes ocre qui conviennent à merveille au paysage filmé, et Kurt Neumann se montre bien plus inspiré que lorsqu'il était coincé dans l'habitacle étroit de la fusée lunaire. Surtout, le film prend alors une tournure tragique en mettant en scène un décor dévasté, hanté par des silhouettes vaguement humaines et franchement hostiles. Rocket Ship XM est sans doute l'un des tout premiers films à envisager la destruction d'un monde suite à une guerre atomique, et son propos pessimiste est renforcé par une fin assez inhabituelle pour ce genre de film. Du coup, même si toute la partie concernant le vol en lui-même est plutôt barbante, Rocket Ship XM fait partie des films de SF de cette période qui méritent d'être redécouverts. Thank you. À partir d'un point de départ similaire, mais avec encore moins de moyens, Flight to Mars, réalisé par Leslie Selander et sorti en salle en 1951, raconte un autre voyage vers Mars et la première rencontre avec ses habitants. Peu de moyens donc pour ce film, obligé de recycler décors et costumes provenant d'autres productions. Ainsi, l'intérieur de la fusée ressemble-t-il énormément à celui de Rocket Ship XM, et les scaphandres que portent les martiens lorsqu'ils viennent à la rencontre des terriens sont ceux que portaient les astronautes de Destination Lune. Les martiens que l'on découvre ici sont à peu près aussi humains que vous et moi, et du coup aussi dangereux. Obligés de vivre dans des villes souterraines pour cause d'air irrespirable, et craignant de voir leur civilisation s'éteindre d'ici quelques années, certains d'entre eux voient dans l'arrivée des terriens une opportunité à saisir pour s'emparer de leur fusée et se lancer à la conquête d'une terre bien plus accueillante. Un projet auquel s'opposent d'autres martiens qui vont aider les terriens à s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. La description qui est faite de la civilisation martienne est le principal intérêt du film, pour ne pas dire le seul, et lui permet de se distinguer du tout venant de la production de l'époque. Ceci dit, une fois le complot des martiens révélé, il ne se passe plus grand-chose à l'écran, et il est permis de somnoler un peu en attendant la conclusion prévisible du récit. Ajoutons à cela des décors en carton-pâte et des effets spéciaux très approximatifs, même pour l'époque, et on obtient un film très mineur, à réserver aux plus insomniaques des spectateurs. Dernier film au programme de ce coffret, Red Planet Mars n'est pas le meilleur, mais c'est certainement le plus étonnant. Réalisé par Harry Horner et sorti en salle en 1952, il s'agit de l'adaptation d'une pièce de théâtre de 1932, adaptation signée par ses créateurs Anthony Weiler et John L. Balderston. Pour mémoire, Balderston a participé à l'écriture des premières et célèbres adaptations à l'écran de Frankenstein, Dracula ou La Momie, mais a également scénarisé des films aussi prestigieux que Les Trois Lanciers du Bengale ou Le Prisonnier de Zenda. Étonnant donc de le voir à l'origine d'un projet tel que Red Planet Mars. On a souvent abusivement réduit les films de science-fiction américains des années 50 à une métaphore de la guerre froide. Red Planet Mars est l'un des rares films de cette période à ancrer son récit dans un tel contexte. On ne peut pas proprement parler de film de propagande, comme le sera la même année Invasion USA, film racontant l'attaque des États-Unis par l'URSS, et qui au final invite ouvertement les spectateurs à participer à l'effort de guerre à venir. Red Planet Mars ne se situe pas exactement dans le même registre, même si ses scénaristes prennent clairement parti pour leur pays, et mettent en scène des soviétiques particulièrement caricaturaux. Le film débute par une expérience visant à entrer en contact avec d'éventuels martiens, expérience qui, après quelques tâtonnements, s'avère être un succès. Mars est bien un monde habité, et ses occupants ont bâti une civilisation bien en avance sur la nôtre. Pourtant, les bonnes nouvelles en provenance de la planète rouge vont bientôt semer la panique dans tout l'Occident. Le fait que les martiens ont une espérance de vie de 300 ans, qu'ils disposent d'une source d'énergie illimitée et d'une agriculture de pointe, va faire s'effondrer toute l'économie capitaliste. Tout à coup, les prix des matières premières s'effondrent, des milliards de dollars disparaissent en bourse, et les compagnies d'assurance résilient toutes les assurances-vie. Tout cela sous le regard ravi du Soviet suprême, bien évidemment. Lequel Soviet suprême va à son tour se retrouver dans la panade lorsque les messages en provenance de Mars vont soudain prendre une tournure religieuse à laquelle il ne s'attendait pas. De par son propos, Red Planet Mars est un film qui ne ressemble vraiment à aucun autre. Il aborde l'affrontement entre l'Est et l'Ouest du point de vue religieux plutôt que politique et économique, et s'achève par des cantiques qui risquent de retourner l'estomac des mécréants qui composent l'essentiel de l'auditoire de ce podcast. Par ailleurs, son scénario n'est pas sans quelques incohérences qui plombent quelque peu le récit, notamment lors des révélations finales censées apporter un peu de sel à cette histoire. Alors certes, le propos peut faire ricaner, n'empêche que par son utilisation inattendue d'une idée de SF pour promouvoir son discours religieux, et par la manière dont les scénaristes font s'effondrer du jour au lendemain les deux grands blocs, et puis surtout parce qu'il s'agit d'un film vraiment unique en son genre, Red Planet Mars mérite bien qu'on perde 1h23 à le découvrir. En prime, on a droit à Peter Graves, le futur Mr. Phelps de Mission Impossible, dans l'un de ses tout premiers rôles. Bref, je conseille vachement fortement l'achat du coffret Destination Mars, d'autant plus qu'il est plutôt bon marché, comptez 20€, qu'il est joli comme tout, et qu'à l'intérieur, on y trouve même un petit livret présentant sommairement la SF de cette époque, ainsi qu'une série de cartes illustrées jolies comme tout, reprenant les affiches publicitaires de l'époque. Qu'est-ce que vous voudriez de plus ? Puisque nous sommes dans les années 50, restons-y encore un peu, le temps d'évoquer la réédition en folio SF de L'Homme démoli d'Alfred Bester, roman de 1953, qui accessoirement obtint le premier prix Hugo de l'histoire. Alfred Bester est un auteur dont l'influence et l'importance dans l'histoire du genre sont inversement proportionnelles à la taille de sa bibliographie. On pourrait voir en lui le chaînon manquant entre les auteurs classiques des années 40 et la nouvelle vague qui renouvela le genre dans les années 60. Et L'Homme démoli, son premier roman, réunit toutes les qualités et toutes les particularités qui ont fait de son œuvre l'une des plus atypiques et des plus importantes de la SF américaine. Sur la forme, L'Homme démoli se présente comme un polar. C'est l'histoire de Ben Reich, un industriel aux abois qui, craignant de perdre le contrôle de sa compagnie, décide d'assassiner son principal concurrent. Plus facile à dire qu'à faire, dans un monde où aucun meurtre n'a plus été commis depuis 70 ans, et où les policiers sont des mutants télépathes baptisés X-Trapers. En parallèle aux manigances de Reich, on va suivre l'enquête menée par l'un de ses X-Trapers, Lincoln Powell, commissaire principal de la brigade des crimes psychotiques. A priori, le duel à distance opposant les deux hommes est totalement déséquilibré, pourtant il va donner lieu à une course-poursuite de longue haleine et insuffler au roman son rythme effréné. La manière dont Bester met en scène ces mutants se distingue assez nettement de la façon dont ils sont traités dans la plupart des meilleurs romans de la décennie précédente. Ce ne sont ni des marginaux ni des victimes, bien au contraire, ils sont totalement intégrés dans la société et l'ont progressivement transformé grâce à leurs dons particuliers. Celui qui se trouve en marge de la société, ici, c'est bien Ben Reich, un être archaïque, névrosé, victime de pulsions d'un autre temps et qui menace de faire retomber l'ensemble de la société dans la barbarie. Ces mutants permettent surtout à Alfred Bester d'innover formellement et de se prêter à quelques expérimentations, comme lorsqu'il transforme les conversations entre plusieurs X-Trapers en calligrammes, du jamais vu dans un roman de science-fiction à cette époque. Une façon très novatrice d'aborder les dialogues qu'on retrouve de manière moins spectaculaire tout au long du roman. Évidemment, le roman a beau être très en avance sur son époque, et bénéficier en outre d'une nouvelle traduction de Patrick Marcel, il n'en reste pas moins par certains côtés quelque peu daté aujourd'hui. Ça n'enlève absolument rien au plaisir de lecture qu'il procure, et dans tous les cas, L'Homme démoli demeure aujourd'hui un incontournable pour tout fan de science-fiction qui se respecte.
Punishment, but commit. no cry.